Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce sont donc tous les saints du ciel, les élus, les bienheureux, tous ceux qui sont parvenus dans la cour céleste, que nous fêtons aujourd'hui en cette solennité de la Toussaint. Et tout de suite, une question peut se poser. Pourquoi honorons-nous ces saints? À quel titre les célébrons-nous ainsi? Vous savez sans doute que beaucoup de protestants refusent catégoriquement le culte des saints. Pour eux, la mort est une barrière infranchissable. Tant que nous sommes en vie ici-bas, nous pouvons nous dire les uns aux autres « Priez pour moi ». Nous pouvons demander aux autres chrétiens d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. Ça, les protestants ne peuvent pas le nier, car c'est continuellement dans la Sainte Écriture. Dès l'Ancien Testament, on voit de nombreux personnages se recommander à la prière des autres. Par exemple, Esther, avant une démarche très importante, demande « Rassemblez tous les Juifs et priez pour moi ». Et même les méchants, dans leur moment de lucidité, se recommandent à la prière des bons. « Priez le Seigneur pour qu'il écarte cette plaie », demande le Pharaon à Moïse. Dans le Nouveau Testament, les apôtres recommandent de prier les uns pour les autres. Et dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apprendre à prier non seulement pour notre famille et pour nos amis, mais pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent et nous calomnient. Lui-même a donné l'exemple sur la croix, et on voit encore le premier martyr, saint Étienne, lapidé par les Juifs, qui invoque Jésus pour se recommander à lui, mais aussi pour ceux qui sont en train de le tuer. Les Actes des Apôtres précisent qu'il criait d'une voix forte, « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché ». On pourrait donc facilement demander à ces protestants pourquoi il est permis de dire « Priez pour moi à n'importe quel habitant de la terre et non pas aux habitants du ciel ». Tant que les apôtres Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Paul, tous les autres étaient ici-bas, il était permis et même recommandé de leur demander « Intercédez pour nous auprès du Seigneur ». Mais depuis que le Seigneur les a rappelés à lui, ça serait rigoureusement interdit. Pourquoi donc? Eh bien, c'est que pour les protestants, comme on l'a dit, il y a une sorte de barrière infranchissable entre les vivants et les morts. Et si vous insistez, ils vous brandiront les textes de l'Ancien Testament qui interdisent d'évoquer les morts. Car chez les païens antiques, il existait, comme chez les païens modernes, des pratiques de spiritisme ou de nécromanie, où on essayait de faire parler les morts dans des cérémonies bizarres qui, en fait, ouvraient plutôt la porte aux démons. Et bien sûr, la loi juive interdisait ce genre de pratiques, comme l'Église catholique continue à les interdire aujourd'hui. Mais les protestants ne voient pas la différence entre ces pratiques de sorcellerie et la demande que nous faisons aux saints de prier Dieu pour nous. Pour eux, du moment qu'une personne a quitté cette terre, il est absolument interdit de lui adresser la parole, même dans un but de piété. Et si vous de leur demandez pourquoi, la réponse jaillira tout de suite, parce que la Bible le dit. Mais en réalité, la vraie question est de savoir si, oui ou non, la venue de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, a changé la situation des morts. Avant qu'il vienne, c'est sûr, les âmes des défunts étaient dans un état très misérable, enfermées dans ce qu'on appelle les enfers ou les limbes. Elles étaient vraiment dans un monde à part, totalement coupées aussi bien du ciel que de la terre. Et il était inutile de prier ces âmes-là, même celles des saints patriarches, parce qu'elles ne pouvaient pas nous entendre. Il n'y avait donc pas chez les Juifs, l'équivalent de notre culte des saints. On ne les invoquait pas, et la loi de Moïse mettait sévèrement en garde contre toute tentative d'entrer en contact avec eux. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, et c'est ce que les protestants oublient. Jésus-Christ est venu. Il est venu affronter et vaincre la mort. Pour ça, il a d'abord voulu la subir, et il a voulu descendre lui-même au séjour des morts, les enfers, pour en délivrer les captifs. Désormais, grâce à notre Sauveur, les saints ont accès à la vision de Dieu, la joie du paradis. Ils attendent encore la résurrection de la chair et le jugement final, mais en attendant, ils ont déjà la béatitude céleste et ils peuvent très efficacement intercéder pour nous, car ils ne se désintéressent pas de nous. Comment le pourraient-ils ? Ne sont-ils pas membres de notre Seigneur Jésus-Christ comme nous ? Et un membre peut-il souffrir sans que les autres s'en inquiètent ? Jésus-Christ lui-même, au ciel, intercède continuellement pour nous. On peut même dire que les saints ont une mission au ciel. Et tant que le jugement final n'est pas intervenu, tant qu'il y a encore ici-bas des hommes à aider, les saints du ciel interviennent en notre faveur. Et ça n'est pas une simple supposition, c'est une vérité de foi. On peut même en trouver la mention dans l'Évangile. Vous connaissez tous dans l'Évangile la grande description du jugement dernier que saint Matthieu rapporte au chapitre 25e. Le Fils de l'homme qui vient pour séparer, comme un pasteur sépare les brebis des boucs. Il met les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Et il dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. » Puis à ceux qui sont à gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. » Mais avant cette description saisissante du jugement dernier, saint Matthieu cite d'autres paraboles de Jésus qui annoncent un autre jugement. Non pas le jugement universel, où tous les hommes seront rassemblés à la fin du monde, mais un jugement individuel, personnel. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier, juste après la mort. Et à ce moment-là, ceux qui ont bien rempli leur mission sur la terre ne reçoivent pas seulement le bonheur du ciel, ils reçoivent aussi une autre mission, beaucoup plus large que celle de la terre. Par exemple, l'homme qui a bien fait fructifier ses 5 talents entend d'abord, enfin il entend à la fin, « Entre dans la joie de ton maître », il est admis au ciel, il rentre dans la béatitude, mais il entend aussi le juge lui déclarer « Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te préposerai à beaucoup. » Il est clair qu'il reçoit une certaine charge à gérer. Et dans la parabole racontée par saint Luc, c'est même encore plus clair, car celui qui a bien fait valoir 10 mines reçoit le gouvernement de 10 villes. Celui qui a bien fait valoir 5 mines, le gouvernement de 5 villes. En revanche, celui qui n'a pas fait fructifier son talent n'est privé, et qu'il reçoit ce talent, eh bien, celui qui a bien fait fructifier 10 talents. Donc on voit, il y a une mission beaucoup plus large que celle de la terre, mais proportionnée à celle-ci. Autrement dit, entre le jugement particulier de chaque homme et le jugement dernier, il y a pour les saints un état intermédiaire. Ils ont déjà la béatitude, pourtant ils n'ont pas encore leur corps, et ils sont encore mêlés à notre monde, ils y ont encore des responsabilités sur notre monde terrestre. On peut trouver ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. « Celui qui vaincra et gardera mes paroles jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations et il les gouvernera. » Donc un chef de famille ou une mère de famille qui parvienne au ciel continue de là-haut à veiller sur leurs enfants et sur leurs descendants. Et n'importe quel chrétien, prêtre ou laïc, qui s'est bien acquitté de son devoir d'État, reçoit au ciel une responsabilité élargie. C'est une vérité que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait particulièrement bien compris, elle qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est aujourd'hui ce que nous devons considérer dans les saints, ce double État. D'un côté, ils sont au ciel, déjà, dans le bonheur, et nous devons nous réjouir avec eux. Et d'un autre côté, ils continuent à s'occuper de nous, et nous devons donc les prier, les implorer. C'est vraiment la double finalité de cette fête, et c'est ce à quoi nous devons nous exciter pendant cette journée, nous réjouir en voyant leur bonheur, qui est l'annonce d'une autre, si nous sommes fidèles, et en profiter aussi pour leur demander leur aide, pour renouveler notre dévotion à certains d'entre eux. Il est normal que nous soyons plus dévots aux saints à qui nous sommes liés d'une façon ou d'une autre. Les saints dont nous portons le nom, les saints qui ont pu exercer le même métier que nous, les saints de notre pays, ou bien ceux qui nous paraissent proches pour une raison ou pour une autre. Et puis, bien sûr, au-dessus de tous, c'est la Sainte Vierge, reine de tous les saints, que nous devons invoquer par-dessus tout, invoquer tous les jours, parce que c'est elle qui intercède avec le plus d'efficacité auprès de son Fils, c'est certain. Donc, demandons-lui de rentrer pleinement dans l'esprit de l'Église en cette fête de la Toussaint, c'est-à-dire à la fois cette joie en voyant leur bonheur, et cette joie renforcera notre espérance, et aussi cette confiance en leur intercession qui nous fera recourir à eux et à elle, la reine de tous les saints, avec beaucoup de confiance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.